Bonjour et bienvenue dans la quatrième L'Hebdo.
Cette semaine sur Radio Albatros, c'est jour de lecture. On a ouvert notre micro à des amoureuses des mots et de l'écriture, des étudiantes en master de création littéraire qui sont venues présenter leurs projets dans l'Hebdo. Cette semaine, c'est Marie H.L.
Je vais vous lire un texte extrait du premier roman que j'ai écrit qui s'appelle « Je ne suis pas une fugue ». Et c'est donc le premier chapitre qui s'intitule Virginia et qui met en scène donc deux personnages féminins, Maya et Virginia, qui partent ensemble dans un combi bleu le long des berges du Rhin. Ça faisait déjà 6 jours que nous avions quitté Hambourg, mais pas moyen de mettre la main sur ses boots. En chemin dans le combi bleu, elle agrippée au volant, moi au siège passager, on roulait. On a roulé pendant longtemps, vraiment, vraiment longtemps. Elle ne parle pas, ou peu du moins, moi non plus puisque je n'avais rien à dire. Le tas des questions suspendues ne poignait pas encore. Dans ma gorge, on avait comme noué des cordes. On avait comme allumé la ventilation à fond pendant des jours, si bien qu'elle avait explosé la jauge du liquide de refroidissement. À sec, le réservoir s'était fissuré et coulait lorsqu'on le remplissait en déposant des petites taches régulièrement espacées sur le goudron. Bien sûr, ça on ne le savait pas, on le remarquait juste, sans le dire, que l'air avait un goût bizarre, une remontée acide de l'estomac d'un angoissé privé de gaviscon, ou l'odeur des traversées des champs de choux de Bruxelles sur l'autoroute. Elle a fini par décrocher un truc. Ma grand-mère est malade. Sa grand-mère est malade. Est-ce que ça veut dire qu'elle va mourir ? J'ai pensé. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vue. 11 ans, tout au moins. Il faisait chaud sous la glycine de sa maison. Je me souviens d'un portillon en bois bleu et d'un enfant enroulé dans une couverture chaude de son sommeil. Une portière, des bras, de la hâte, des chuchotements. Un lit froid, du coton ou du lin, rêche, serré, du parquet brut qui craque. Des adultes qui s'en vont dans les escaliers. Des fantômes que j'essaie d'oublier. On a traversé un champ d'éoliennes. Elle a baissé la vitre. De l'air est passé sous ses cheveux jusqu'aux miens. On a senti l'oxygène pénétrer les pores de nos peaux et s'immiscer entre nos vêtements. Il a décollé légèrement la chemise en soie qu'elle portait rentrée dans son pantalon et qui la faisait bouffer. On aurait dit de son ventre qu'il portait l'enfant de l'air. Je l'ai regardée. Elle fixait la route. On allait vite. Dehors défilait à toute allure, dans ses yeux qui ne clignaient pas. Est-ce qu'on se serait envolé si les fenêtres étaient grandes ouvertes ? J'aurais aimé, à partir loin, autant prendre le large de l'espace. Pour une fois, j'aurais voulu connaître la texture d'un altocumulus. Ceux qui nous abritaient étalaient leur blancheur comme une tartine de fromage de chèvre avalée d'une traite. Ça faisait comme une pâte blanchâtre, immaculée, rugueuse et sans odeur. Y goûter ou m'y plonger, m'asperger de peinture avant, pourpre, tacher la masse informe, épaisse d'un grand coup de hanche. On a fabriqué le papier canson à la manière du ciel, je me suis dit. Une page blanche et bosselée de grains pulpeux dans lesquels s'entretissent de brefs apports lumineux. Quand on le mouille, les taches d'encre filent entre les bosses, ruissellent, cherchent un temps sec pour s'y nicher, puis s'amoindrissent et se fanent à la toute dernière fibre. Quand ça sèche, la couleur pâlit un peu, puis reste là, figée. Il se mit à pleuvoir. Elle tourna la manivelle du véhicule d'un geste décidé et le mécanisme remonta la vitre. Lors d'une traversée en combi, on prévoyait toujours de la musique. Elle modelait l'espace. Il y avait nous, nos peaux, les fringues, la musique, la carapace de métal, dehors et puis le ciel. La musique, ce liquide amniotique, bien contenu. Machinalement, elle appuya sur play. La chemise de soie ne flottait plus dans le vent, mais dans l'air des mélodies compilées sur CD gravées. Une chanson égale un paysage. Ça nous berçait autant qu'un tambour de machine à laver. Les chansons arrondissent les angles des plages arrières. Muettes presque, mâchonnant des paroles par bribes, j'anticipais les refrains dont elles se souviendraient et les couplets désertés. Chante-t-on des refrains pour se souvenir ou pour oublier ? J'avais été frappée un jour par la similitude de nos pieds. On les avait mélangés, quatre pieds vraiment pareils. Les mêmes ongles, la même peau, la même forme, la même taille. Lequel appartenait à qui ? On ne savait plus. Ce jour resté gravé comme un anniversaire me semblait clair et précis. On avait passé le best-of d'Idir sur la chaîne du salon. En poussant les meubles, une scène s'était dégagée, le tapis périmètre de nos danses. Endiablés, pieds nus, sorcières, cheveux, moulins, hanches, fibres, laine, caresses, roulades, des mots, les dents, sourires, sourcils, froncés, concentration, tournis, paumes, des flux. S'échanger nos chaussures, danser pour l'autre, assortir nos tenues. Le CD s'arrêta. Côté passager, la boîte à gants était un véritable jukebox. À côté des jumelles, je plongeais ma main dans la pile intarissable de disques et en tirais un album, pochette, bleu ciel, eject, insert, play. On passa devant un fleuve, le Rhin. Immense réserve verte-grise sur laquelle passaient des péniches alourdies, pas pressées, comme nous. Elles erraient tout droit, sillon déjà là, sans voix, puisque perdues dans l'averse qui obstruait l'horizon. On les enjambait, un pont surplombait la noue démesurée. Regorgeait sûrement de crapauds, brochets, algues, caddies, cadavres, saumons. 150 à 300 000 saumons sont introduits chaque année dans le fleuve. Parmi eux, certains remontent jusqu'aux îles Féroé ou au Groenland et essayent de revenir. Homing, capacité innée de naviguer vers son lieu d'origine en traversant des lieux inconnus. La pluie devenait torrentielle. Le combi s'arrêta, se gara sur le côté, écartant le danger des autres véhicules, filant sans souci. Au milieu du pont, les essuie-glaces n'y faisaient plus rien. Le liquide de refroidissement inopérant laissait notre pare-brise opaque de buée. Dehors, il y avait des phares que l'on distinguait mal. Incandescence floue, flottante, on n'y voyait rien, mais on était à l'abri. Elle baissa la vitre. De l'eau s'immissa dans notre habitacle. Les yeux plissés, elle désigna une des péniches qui s'apprêtait sous nos roues, me sommant de lui passer les jumelles. Sa chemise en soie était mouillée, ça ne la dérangeait pas. Elle aperçut quelque chose sans le voir. Je lui tendis les jumelles, elle regarda. J'avais froid, je coupais le moteur sans savoir pourquoi, par réflexe, par mimétisme pour les gestes des grandes personnes, pour l'écologie des bords du Rhin. Le CD bleu clair changea de piste, track 5, By the river's dark. Elle reposa les jumelles. Ses pupilles étaient dilatées. On ne distinguait presque plus rien du vert anis de ses iris. En silence, la chemise collante à sa peau, tendue sur la courbe de son pendentif, de ses seins, de son bas-ventre troué, elle scruta encore une fois. La péniche disparut dans le bruit assourdissant de sa sirène, sous le pont, faisant vibrer les câbles d'acier qui retenaient la route suspendue à des piliers, et le son submergeait à la fin du refrain. J'avais continué les paroles dans ma tête pour ne pas en perdre le fil, si bien que lorsque la péniche se tut, les mots de l'autoradio étaient les mêmes que moi. Le déluge se calma, elle ralluma le moteur, démarra le combi. Lente rémission. Avant de quitter le pont, j'attrapais les jumelles et regardais à mon tour la péniche s'éloigner. Sur sa coque, un logo abîmé représentait une paire de bottes en cuir rouge bordeaux et un peu plus haut, cette inscription peinte à la main. Siloé.
Merci Marie-Achelle. Et rendez-vous sur Radio Albatros pour une autre lecture dans une prochaine, la quatrième, l'hebdo.